Nous sommes partis en fait d'un principe d'ignorance. Nous ne savons pas ce qu'est l'art sonore et nous n'allons pas chercher à le définir, mais nous allons tenter de faire jouer les différences. Donc chaque journée est consacrée à un des dehors du son, l'espace, l'image, l'action, et le rapport, les relations que dans l'histoire le son a tissé avec ces dehors, nous est livré au XXe siècle de manière assez réglée, par un jeu réglé, par des jeux réglés. Alors, entre le son et l'espace, c'est le cas de la musique. Il y a un jeu réglé du son avec l'espace dans la musique. Il y a un jeu réglé du son avec l'image dans le cinéma, par exemple. Il y a un jeu réglé du son avec l'action dans l'interprétation musicale des instrumentistes. Et on va s'intéresser en fait au nœud, au moment historique où ce jeu se dérègle, où les règles changent, voire s'abolissent. Et dans ces nœuds-là, dans ces nœuds historiques esthétiques, quelque chose se précipite qui pourrait être appelé l'art sonore, justement. Donc il y a des moments où l'art sonore surgit et on peut après essayer de voir, de déterminer des points communs entre ces moments. Mais il est peut-être plus intéressant, pour commencer, de travailler localement hein, sur des moments ou des œuvres où quelque chose comme... un jeu se dérègle hein, entre le son et l'image, entre le son et l'espace, entre le son et l'action. Donc aujourd'hui, moi je vais parler d'espace, bien sûr. On pourrait le dire autant du bruit, à vrai dire. Hein. Je vais dire un mot sur le bruit également. Le bruit est aussi le nom générique d'un trouble, hein, où l'art sonore, où la musique devient art sonore, où la musique se pose d'autres questions que celles qui ont... rythmer le cours de son histoire. Je voudrais, pour commencer cet exposé sur l'espace, partir d'évidences qui pourraient se révéler trompeuses, mais il est bien de partir d'évidences pour commencer. Je dirais donc la musique compose et l'art sonore installe. Alors évidemment, ça, cela rigoureusement est faux. Hein, il y a des musiques qui ne composent pas et des œuvres d'art sonore qui ne sont pas des installations. Mais ça nous permet d'essayer de penser de grandes différences, hein, pour commencer. La grande différence serait entre composer et installer. Le musicien compose donc. Il choisit des sons, hein, qu'il peut aussi inventer, et il les dispose dans le temps, successivement. Cette disposition dépend d'un certain nombre de paramètres, qui sont plus ou moins extérieurs à l'action proprement compositionnelle, hein, instrument disponible, moment historique, situation géographique, commanditaire, lieu de création, qualité, quantité du public, etc. Et la musique, bien sûr, a toujours été pleine de ça, pleine de non musical. Elle ne cesse de se relier au non musical et de s'en nourrir. Bon. Mais malgré tout, ce qu'on entend finalement, c'est bien toujours une certaine suite de sons qui est censée avoir une valeur en elle-même, abstraction faite de tous ces paramètres. Bon. De très grande généralité, pour commencer. Alors prenons maintenant l'exemple de l'espace au sens que je choisis de lui donner, c'est-à-dire au sens de ce qu'il y a de plus extérieur à l'acte compositionnel. Alors, je ne parlerai pas de l'espace interne du son, hein, pris dans un sens souvent métaphorique, donc cet espace-là, je n'en parlerai pas. On pourrait en parler, parce qu'il y a aussi quelque chose dans cet espace qui pourrait intéresser l'art sonore, mais ce serait nous emmener trop loin. Bon. Donc je parlerai aujourd'hui de l'espace en tant qu'il est extérieur à l'acte compositionnel, c'est-à-dire les positions respectives des instrumentistes ou des haut-parleurs, je reste dans le cadre de la musique, bien sûr, et l'architecture. Et par architecture, j'entends aussi bien les propriétés acoustiques de la salle de concert, des lieux dans lesquels la musique est jouée, que son organisation spatiale. Hein, c'est-à-dire que le type de relation que cette organisation spatiale de l'espace détermine entre scène et salle, musique et public. Alors pendant très longtemps, les compositeurs n'ont guère pu agir sur ces paramètres, pourtant très importants. Alors on peut citer bien sûr des exemples singuliers, comme Jean-Sébastien Bach à Leipzig, qui a joué du temps de réverbération très court de cette église, hein, d'où le tempo très rapide des basses, des parties de basse, des fugues pour orgue de Bach. On peut citer aussi Monteverdi et Gabrielli à Venise, qui, dans la basilique Saint-Marc, ont profité du lieu pour inventer, si on peut dire, la spatialisation instrumentale, hein, avec des œuvres composées pour plusieurs orchestres et plusieurs chœurs, disposés dans différents espaces de la cathédrale, qui possédait deux orgues, qui possède toujours deux orgues. Bon, donc exemple singulier, exceptionnel. Donc pendant très longtemps, les compositeurs n'ont pu agir sur ces paramètres, jusqu'au XXe siècle, où ils ont clairement revendiqué le droit donc, de choisir les positions respectives des sources sonores, ainsi que l'architecture, donc au sens de l'organisation spatiale des lieux de concert, les deux choix étant d'ailleurs souvent corrélatifs. Certaines dispositions instrumentales étant impossibles à réaliser dans certains types de lieux. Donc les exemples sont innombrables. Ça va de Gruppen pour trois orchestres de Stockhausen à Répon de Pierre Boulez, où l'orchestre est au centre, le public autour, et les solistes encore autour du public. Pour citer Thierry Tector de Xenakis, où l'orchestre est dispersé dans la salle. Ou bien un très bel exemple, à mes yeux, le Voynich Cypher Manuscript de Hans-Peter Kiburz, compositeur suisse-allemand, où le chœur et l'orchestre sont disposés sur deux carrés situés dans et autour du public. Bon. Donc ces spatialités instrumentales, hein, position relative des instruments et position relative du public par rapport aux instruments, viennent contredire évidemment certains types de lieux, hein, notamment les lieux disposés à l'italienne. Donc il y a, de ce point de vue-là, un effet indirect de la musique sur l'architecture, qui produit des spatialités impossibles dans l'architecture classique, traditionnelle, héritée des salles de concert. L'architecture aussi politique. Alors, l'exemple le plus frappant de cette appropriation, hein, de paramètres spatiaux, et le travail de Karlheinz Stockhausen, donc compositeur mort récemment, qui était jusqu'à faire de l'espace, alors de la position relative des sources par rapport au public et entre elles, le cinquième paramètre du son, après les quatre autres connus, intensité, durée, timbre et... intensité, durée, timbre et quatrième, hauteur, proposant donc de mettre en série, comme les quatre autres, ce paramètre également, hein. Dans le cadre du surréalisme intégral des années 50, on mettait en série de 12 ou plus de sons, 12 ou plus de signes, non seulement les hauteurs, mais également les timbres, l'intensité, donc les dynamiques et les timbres, intensité, dynamique et hauteur. Et ce Cazone proposa d'ajouter l'espace, la distance, comme cinquième paramètre, donc de mettre en série également ce paramètre-là, donc de composer l'espace, de composer littéralement la distance séparant les instruments des auditeurs. Dans un fameux article qui s'appelle « Musik im Raum », publié en 1959, il a également établi les critères architecturaux des salles les mieux susceptibles d'accueillir ce qu'il appelle la musique instrumentale spatialisée, donc la musique qui travaille et joue de la position des sources. Hein, évidemment, ces architectures obéissent au principe de l'architecture modulable, hein, un des rares exemples actuellement existants est la Cité de la musique à Paris. Bon. On peut moduler l'espace intérieur en fonction des œuvres qui seront jouées. Bon. Un compositeur français, d'ailleurs, Marc-André d'Albavy, qui a une cinquantaine d'années aujourd'hui, va jusqu'à composer ses œuvres symphoniques en fonction de l'acoustique des salles dans lesquelles elles sont créées. Hein, il a ainsi calculé le matériau harmonique de sa pièce Concertate il Suono à partir des fréquences de résonance et du temps de réverbération de la salle d'orchestre de Cleveland où l'œuvre a été créée. Hein, et on peut imaginer qu'il va légèrement modifier l'œuvre en fonction évidemment des lieux où elle sera jouée. Bon, on voit à travers ces différents exemples, hein, je n'insiste pas, comment la musique donc, compose aussi l'espace. Hein, donc les positions respectives des sources et la place relative du public, indirectement l'architecture intérieure des salles de concert, donc comme je l'ai dit, en produisant des spatialités qui invalident certaines dispositions typiques. Enfin, et c'est le plus rare, il compose également la relation entre les sons musicaux et les propriétés acoustiques du lieu où ils sont interprétés. Bon, et là, je voudrais prendre un exemple assez frappant, hein, puisque certains compositeurs vont jusqu'à faire construire le lieu lui-même. Hein. Autrement dit, le lieu va être construit, donc composé en fonction et avec la musique, et réciproquement. La musique composée en fonction de ce lieu qui sera bâti selon des critères alors, musicaux, mais pas seulement. Donc, l'exemple le plus connu est le Prométhée de Luigi Nono, hein, qui a été créé à Venise, dans un palais vénitien, dans un habitacle donc, qui venait revêtir les murs du palais, un habitacle élaboré par Renzo Piano, hein, le grand architecte italien. Bon. L'exemple que je voudrais prendre est un exemple assez récent. Il s'agit de l'opéra Fama de Beat Fourer. Alors, vous avez une image derrière de l'intérieur donc de ce lieu construit pour cet opéra. Donc ça, c'est pas une photo, bien sûr, hein, c'est une image 3D. Donc, Fama pour grand ensemble, mi-voix, actrice et construction sonore. Un opéra écrit d'après Mademoiselle Else, donc d'Arthur Schnitzler. Donc, je ne vais pas insister lourdement, mais c'est extrêmement intéressant, puisque le lieu en question, l'objet en question, donc, que vous voyez ici, qui est une boîte hein, dans laquelle le public se trouve, a plusieurs valeurs et plusieurs sens. Hein. Il y a d'abord un sens clairement symbolique et mythologique, puisque Beat Fourer, en fait, est parti pour le construire, le concevoir, d'un passage du 12e livre des Métamorphoses d'Ovide, dans lequel Ovide parle de la déesse de la rumeur, qui s'appelle Fama, qui possède une maison dans laquelle toutes les rumeurs du monde, tous les sons du monde viennent se réunir. Hein. Et donc ce serait aussi cette boîte-là, hein, cette boîte où tous les bruits viennent se rejoindre hein, et se conjoindre. Bon. Il a un sens aussi dramaturgique, dramatique, hein, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais le thème, le sujet de Mademoiselle Else, c'est le monologue. Hein. Mademoiselle Else est le monologue de cette jeune fille qui se prostitue pour rembourser les dettes de son père et qui en devient folle, et qui est travaillée par une opposition extrêmement douloureuse entre intérieur et extérieur. Hein. L'extérieur, la foule, est susceptible de la mettre au banc de la société, d'en faire une paria, donc elle n'ose plus sortir. Et puis l'intérieur de son propre esprit qui est travaillé par cette culpabilité. On sait que Schnitzler était lui-même presque l'inventeur romanesque de la psychanalyse. Hein. Freud l'a toujours considéré comme son double romanesque. Donc il y a cette opposition-là que Beat Fourer met en scène à travers cette boîte où le dehors et le dedans sont toujours intervertis et travaillés hein, et fusionnés. Alors, le principe, ensuite, le troisième sens de cet objet, c'est évidemment le sens acoustique et ce qui permet d'expliquer aussi les deux autres sens, mythologique et dramaturgique. En effet, comme vous le voyez sur l'image qui suit, le public est à l'intérieur d'une boîte dont tous les panneaux sont mobiles. Hein, donc, non seulement les panneaux qui sont latéraux, donc des deux côtés, tous les côtés, hein, mais aussi les panneaux qui sont situés au plafond. Donc, cette boîte est entièrement constituée de panneaux qui tournent sur des axes. D'un certain côté, les panneaux sont très réverbérants, hein, donc recouverts d'une matière très réverbérante, et de l'autre côté, ils sont très assourdissants. Hein. Donc il peut varier ainsi l'acoustique du lieu et il peut faire entrer les sons, au contraire, les repousser à l'extérieur. Donc le public est au centre, les instrumentistes autour, et quelquefois certains rentrent à l'intérieur et les portes se ferment, et à ce moment-là, ça devient de la musique de chambre, si vous voulez. Donc je vais vous faire écouter deux passages de cette pièce assez rapidement. Le début, tout d'abord, où l'orchestre et le chœur pénètrent à l'intérieur de cette gigantesque boîte, hein, comme dans le passage d'Ovide, et ensuite un passage où Mademoiselle Else est seule avec quelques instruments, et où on entend sa voix littéralement étouffée par les parois assourdissantes de la boîte. Voilà, donc ça c'est le début, et puis cette très belle scène où, cette fois-ci, c'est le caractère intime de la boîte qui est mise en avant. Alors, dans ce passage, Mademoiselle Else, Isabelle Menke en l'occurrence, interprète, tourne autour du public avec un porte-voix. Donc c'est pour ça que sa voix a l'air transformée. En fait, c'est une formation acoustique. Voilà, alors on comprend à travers ces exemples que le lieu est ici vraiment le méta-instrument. Hein, c'est le terme employé par Beat Fourreur, le méta-instrument de l'opéra. Oui? Bien sûr. Oui, absolument. Mais bien sûr, la présence du public change non seulement l'acoustique, mais évidemment la manière dont on entend ces sons. Il n'y a pas d'électronique, hein, c'est ce qu'il indique sur la partition, au nœud électronique. Et la pièce était jouée alors, dans le cadre d'un festival de l'IRCAM, ce qui était assez drôle, évidemment, d'avoir une pièce absolument acoustique, mais qui fait du lieu vraiment, hein, de l'espace, hein, on pourrait dire, le dernier instrument, hein, l'espace comme filtre. Comme instrument qui transforme, module les sons et qui aussi, justement, de ce fait, un sens dramaturgique et symbolique. Donc, ça, c'est l'exemple le plus frappant, disons, de la manière dont la musique peut aller jusqu'à composer l'espace. Bon. En tant que l'espace, quelque chose qui lui était resté jusque-là, plus ou moins extérieur. Bon. Je voudrais maintenant en venir à mon propos véritable, c'est-à-dire au deuxième verbe, l'artiste sonore installe, ai-je dit. Donc il y a déjà dans ce mot, hein, d'élabore, une sorte d'odeur d'espace, hein, de connotation spatiale. Bon. Il semble en effet que l'espace soit ici, dans l'installation, plus qu'un paramètre parmi d'autres, mais quelque chose de plus essentiel, d'aussi essentiel peut-être que l'est le temps pour la musique. On compose des sons dans le temps, on installerait les sons dans l'espace. Bon, à dire vrai, l'installation sonore recouvre des pratiques assez variées, qui n'ont pas toutes de rapport immédiat à l'espace, au sens défini tout à l'heure. Difficile donc de faire des généralités sur l'installation sonore. Bon, il va donc nous falloir prendre des exemples et partir d'eux, autrement dit, hein, conceptualiser sauvagement sur le dos de quelques cas. Mais c'est un peu le but des 3 journées, finalement, à partir de cas et faire sauvagement des concepts, hein, à leurs dépens. Alors, donc, soit un cas fameux, alors je prendrai que des cas très connus, hein, que vous connaissez peut-être, donc soit un cas fameux, un des premiers exemples d'installation sonore, Times Square de Max Neuhaus. Je vais retrouver l'image de Times Square. Voilà. Alors cette œuvre, Times Square, se déroule nuit et jour, tout le temps, continuellement, sur un triangle piétonnier que vous voyez en haut de l'image, situé à l'angle de Broadway et de la 7e Avenue à New York. Hein, elle a lieu exactement, précisément, autour, dans les environs, d'une grille d'aération du métro new-yorkais, sous laquelle Neuhaus a placé un haut-parleur qui diffuse continuellement un drone, un son de basse continu, une sorte de faux bourdon. En fait, un énorme son très riche en harmonique qui ressemble à la résonance d'une très grande cloche. Donc la grille, c'est ce que vous voyez dans l'image du bas à gauche. Bon. Alors, d'autres images. Donc voilà la grille dans laquelle Max Neuhaus installe cette pièce, donc son haut-parleur. Ces haut-parleurs. La pièce était installée une première fois en 1977, elle a été ensuite désinstallée, puis réinstallée à nouveau. Donc il y a tout un travail, disons, où il a fallu persuader la mairie de New York que cette pièce était justifiée et devait être pérenne, ce qui est très important pour Max Neuhaus, et elle est actuellement installée. Alors, avant d'aller plus avant, je vais faire une brève digression sur l'écoute qui nous aidera peut-être à comprendre ce qui est en jeu dans cette œuvre très étrange. Dans son traité des objets musicaux, Pierre Schaeffer, que tu as cité, Jean-Paul, distingue quatre fonctions de l'écoute. Ouïr, entendre, comprendre, écouter. Alors je ne m'attarderai pas sur les deux premières, ouïr et entendre. Seules les deux dernières, en effet, concernent l'écoute proprement musicale. Comprendre, d'abord, est appréhender le sens d'un son, autrement dit, l'inscrire dans le contexte d'une œuvre et d'un langage, hein, rapporter ce son à l'ensemble harmonique, mélodique, rythmique auquel il participe. Lui donner en quelque sorte une valeur musicale, comprendre sa valeur musicale. Mais aussi comprendre les sens, le sens d'un mot hein, ou d'une phrase qu'on dit. Écouter, d'un autre côté, et relier le son à sa source, à l'événement de son émission. Autrement dit, le rattacher à l'objet ou à l'être d'où il provient et dont il est l'indice. C'est ce que Pierre Schaeffer appelle le sens, dans la provenance. Donc on a le sens musical et la provenance, l'origine du son. Comprendre, écouter. Et l'écoute musicale, en général, implique bien la mise en œuvre de ces deux intentions. Je comprends, donc je déroule la logique qui articule les sons. J'écoute, je reconnais dans chacun de ces sons l'interprète qui le produit, l'instrument, le geste de l'interprète, la posture de son corps, etc. Cette forme d'écoute, donc cette forme que Adorno a appelée structurelle dans sa sociologie de la musique, aussi rare soit-elle, bon, c'est cette écoute, cette compréhension de l'articulation logique du discours musical, est sans aucun doute, cependant, celle que la musique écrite attend de l'auditeur, car elle est la seule qui soit à même d'articuler et de donner à entendre le sens musical proprement dit. Bon. Mais elle n'est bien sûr pas la seule possible. Et c'est tout l'objet du traité de Pierre Schaeffer est de distinguer une autre forme d'écoute que ces quatre premières. Bon. Alors, Pierre Schaeffer définit cette nouvelle forme d'écoute par différence avec les deux intentions précédemment citées, comprendre les signes et écouter les indices. Il nomme cette nouvelle écoute, l'écoute proprement concrète, l'écoute de la musique concrète, l'écoute réduite. Et je cite Pierre Schaeffer, « Si l'intention d'écoute se tourne vers le son lui-même, comme dans le cas de l'instrumentiste ou de l'auditeur acousmate, indifférente au langage conventionnel et à l'origine anecdotique, donc indifférent au sens et à la provenance, indices et valeurs sont dépassés, oubliés, renouvelés au profit d'une perception unique, inhabituelle mais pourtant irréfutable, ayant négligé la provenance et le sens, on perçoit l'objet sonore. » Donc l'écoute réduite, en quelque sorte, produit l'objet sonore. Le son entendu pour lui-même, dans ses propriétés sonores propres, singulières. Donc l'écoute réduite, l'écoute du son pour lui-même, serait la forme d'écoute appropriée à la musique dont Pierre Schaeffer a été en partie l'inventeur, la musique concrète ou électroacoustique. Donc ni musicale, ni indicielle, elle inaugurerait un nouveau rapport au sonore, et de fait une toute nouvelle manière de décrire et de classer les sons, ce qui est aussi l'objet du traité des objets musicaux. Toutefois, en tant qu'elle relève du champ musical, malgré tout, la musique concrète attend de la part de ses auditeurs la même qualité d'écoute que la musique notée. L'écoute a beau être réduite, elle n'en demeure pas moins idéalement structurelle et donc musicale, à moins de considérer que les œuvres électroacoustiques n'aient ni structure ni forme, ce qui n'est évidemment pas le cas. Bon. Revenons maintenant à nos moutons new-yorkais. qu'est-ce que j'écoute quand je suis plongé dans Times Square de Max Neuhaus, hein, vers quel son dois-je diriger mon attention, hein, vers l'environnement sonore saturé, et quoi en lui, les voitures, les piétons, les bandes son des images projetées sur les écrans géants, bon. Ou bien dois-je diriger mon attention vers la résonance de cloches qui sort de la bouche d'aération? Et comment dois-je les écouter, ces sons, comme des indices, des sons musicaux, des objets sonores? Aucune des écoutes distinguées par Pierre Schaeffer ne permet de savoir comment on doit écouter cette pièce. Il y a là une insuffisance. Aucune des catégories développées par Pierre Schaeffer, qui pourtant, a priori, ont l'air de faire le tour de la question, ne permettent de savoir comment il faut s'y prendre. Mais c'est que, en fait, ces questions sont superflues. Dans le contexte d'une telle installation sonore, l'auditeur, le passant en l'occurrence, s'il prend la peine de s'arrêter et d'écouter, comprend tout de suite qu'il lui est impossible d'écouter le drone, le son qui sort de la bouche d'aération, avec une quelconque de ces trois intentions. Il ne s'agit pas d'un son musical, la source est invisible, et il se donne à entendre sur un bruit de fond assourdissant. Donc ce que le passant auditeur va écouter, ce sera l'un et l'autre, le drone et l'ambiance sonore de Times Square. Enfin, plus précisément, le bruissement du lieu, tel qu'il est filtré et mis à distance par la résonance de cloches. On peut comprendre donc un des buts de cette installation est tout simplement de nous faire écouter Times Square lui-même, c'est-à-dire le lieu en fait le moins musical du monde. Quelle mélodie imprévue, quels objets sonores singuliers, le drone trame jour et nuit dans ce bruit de fond mouvant. En quelque sorte, la résonance de cloches comme moyen d'auscultation, notre environnement sonore. Dans auscultation, il faut entendre ascoltare, le verbe italien qui veut dire écouter. J'ausculte, j'écoute. Il y a là une forme d'écoute qui ne doit rien, évidemment, à celle que distingue Pierre Schaeffer. On pourrait l'appeler, cette écoute, écouter le dehors, écouter le bruit comme pur dehors. Ou plutôt, ce bruit-là, ce dehors-là, incomposable, irréductiblement non musical, irréductiblement bruit. Alors vous me direz, cette écoute n'est pas une écoute, enfin, n'est qu'une écoute réduite, justement, de l'environnement sonore de Times Square. Rien de plus. J'écoute les sons de l'environnement pour eux-mêmes, littéralement. Comme l'auditeur acousmate. Elle est bien sûr cela, mais pas seulement. Et ce pas seulement fait toute la différence, je pense. Car Max Neuhaus ne nous demande pas d'écouter ainsi. Il nous demande de tenter toutes les écoutes possibles de ce lieu inaudible. Réduite, musicale, indicielle, compréhensive, etc. Et notamment les positions variées que l'auditeur peut occuper dans l'espace pas très étendu où le drone est audible. La finalité de Times Square n'est pas de nous faire entendre des objets sonores ou de la musique dans l'environnement sonore, mais de nous faire entendre l'environnement sonore lui-même. Et je dirais que ce qu'elle nous propose finalement, cette installation, ce n'est ni plus ni moins qu'une phénoménologie auditive de Times Square. C'est-à-dire dans le texte que Max Neuhaus a écrit sur cette installation, il dit que ce qui l'intéresse le plus, c'est quand les auditeurs, les passants, croient qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de la situation d'écoute. Qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a ce drone bizarre qui sort de la bouche d'aération, ou ils ne savent pas que ce drone a été composé, et donc ils font venir leurs amis en disant écoute, regarde, j'ai trouvé un lieu très, très étonnant dans Times Square où on peut entendre les sons différemment. Comme s'ils avaient été eux-mêmes à l'origine, finalement, en choisissant la bonne position dans le carrefour de l'œuvre elle-même, de cette situation d'écoute singulière. Donc Neuhaus ne produit pas une œuvre, il se contente de proposer une situation d'écoute qu'il va falloir faire varier en modifiant sa position et en modifiant l'intention d'écoute. Bon. Alors quel espace maintenant est en jeu dans cette œuvre? L'espace du lieu, l'espace des sources, la position relative du passant auditeur par rapport à la source, par rapport au lieu, les propriétés acoustiques du lieu, les caractéristiques sonores du son d'ambiance. Oui, bien sûr, tous ces espaces-là, comme dans la musique. Je dirais que les espaces qui sont en jeu ici sont les mêmes espèces d'espaces que ceux qu'on trouve dans la musique. Seulement, ils n'ont plus du tout la même signification. Car ces espaces-là, il n'est pas possible de les composer, de les paramétrer, autrement dit, de les faire entrer dans le champ de la musique, de les musicaliser. Musicalement, l'œuvre de Neuhaus est très pauvre. Le drone qui sort de la grille n'est pas un son musical, à peine un objet sonore. Ce n'est pas avec ça qu'il peut prétendre faire de la musique avec Times Square. Donc l'espace désigne ici très précisément ce dehors incomposable qu'il s'agit d'ausculter, d'écouter, d'évaluer, d'apprécier. Et c'est à ça que sert la résonance de cloche. Littéralement, phénoménaliser l'environnement, faire de Times Square un phénomène au sens phénoménologique, un pur apparaître auditif, à faire varier dans sa conscience et par sa position dans le lieu. Et là, évidemment, on ne peut pas ne pas penser aux promenades sonores de Christina Kubisch, dont on parlera tout à l'heure, qui travaille, je pense, aussi, de cette manière-là, le rapport au lieu. Puisqu'on entend à chaque fois dans ces promenades le lieu à travers les sons qu'on écoute dans les écouteurs. Bon, mais on reviendra évidemment cet après-midi longuement sur ces promenades sonores. Bien, je pense dans ce travail-là, quelque chose qui est du même ordre, même si il est orienté dans d'autres directions que ce que nous proposait il y a 30 ans Max Neuhaus. Bon, et ce que je viens de dire de l'espace, je pourrais le dire aussi bien du bruit. Pour la musique, alors c'est en partie ce qu'a montré Jean-Paul tout à l'heure, le bruit n'est qu'un son qui n'est pas encore musical finalement, mais qui est appelé à le devenir. Dès qu'on pose un bruit, dès qu'on identifie un bruit dans la musique, ce bruit est déjà musicalisé, puisqu'il est pensé par opposition, par contraste avec un son donc, musical. Il est donc appelé à devenir bruit. Il n'est bruit que pour quelques instants, quelques moments, quelques années encore. Bientôt il sera bruit. Il sera son. Pour Max Neuhaus, pour l'art sonore, au sens où je l'entends à partir de cette œuvre, le bruit est ce qu'il n'est pas question de musicaliser, ce qui doit rester absolument non musical, voire ce qui ne peut être réduit en musique, qu'il va falloir tâcher justement d'explorer et de faire comprendre. Et donc le bruit a ici un tout autre sens. Le bruit, c'est le dehors. Le bruit ne sera jamais appelé à devenir un son musical. Alors, ce que Max Neuhaus fait avec l'environnement sonore, avec l'ambiance donc, de ce carrefour new-yorkais, d'autres artistes sonores l'ont fait avec l'architecture acoustique des lieux, cette fois-ci. Alors, je pense à Alvin Lucier, à Robin Minhart, au groupe japonais WRK, et bien d'autres encore. Il s'agit de manifester les lieux par le son. Les lieux en tant qu'ils sont inaudibles. Les lieux ne font pas de bruit. Les lieux en tant qu'absolument silencieux, si vous voulez. Donc pas les lieux en tant qu'ambiance, mais les lieux en tant qu'architecture. Donc manifester les lieux par le son à l'aide de ses propriétés acoustiques, les propriétés acoustiques du lieu, et faire varier cette manifestation. Ce que Robin Minhart appelle rendre l'architecture fluide, fluidifier l'architecture. Alors je vais vous trouver... Voilà. La liste des modalités auditives de perception des lieux, donc les différents paramètres sur lesquels les artistes sonores agissent pour manifester les lieux, pour les faire apparaître auditivement. Donc temps de réverbération, fréquence de résonance, écho, effet de focalisation et onde stationnaire. Bon. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de faire de la musique avec un lieu, mais de le faire apparaître, donc faire entendre ces fréquences de résonance, son temps de réverbération, là ça c'est facile, assez faible, faire surgir les échos flottants éventuellement qui le traversent, les zones justement où le son se focalise, bon, et travailler cette apparition. Alors il y a un exemple qui est très très connu, mais que je peux peut-être encore diffuser une fois de plus, qui est un peu l'exemple le plus cité dans l'art sonore, qui est une pièce très célèbre d'Alvin Lucier qui s'appelle « I am sitting in a room », que Peter nous a fait entendre l'année dernière dans un symposium Locus Sonus. Mais cette pièce est assez intéressante, et puis c'est une des rares pièces d'art sonore qu'on peut faire écouter, puisque elle manifeste dans son cours la présence de plus en plus significative, de plus en plus grande, du lieu lui-même, en l'occurrence des fréquences de résonance. Alors, je vous explique le principe... Est-ce que je la retrouve? Elle doit être par là, voilà, ici. Le principe, c'est qu'Alvin Lucier dit une phrase, donc la phrase qui est derrière, en anglais, bien sûr, il l'a dit dans une pièce, avec un microphone, et il enregistre sa voix sur un premier magnétophone à bande. Ensuite, il ne dira plus rien. Il se contentera de rejouer cette phrase enregistrée dans la même pièce. Donc, il va diffuser son enregistrement à l'aide du premier magnétophone à bande. Et il va enregistrer donc la résonance de cette phrase, cet enregistrement dans la pièce, sur un deuxième magnétophone à bande. Et il va ensuite diffuser ce deuxième enregistrement et l'enregistrer sur le premier magnétophone à bande, troisième enregistrement, et ainsi de suite. Dans la première version qu'il en a faite, il fait cette boucle une dizaine de fois. Mais il a fait une version plus récemment, dans les années 80, où il répète 32 fois cette boucle. Et donc, on a 32 états, littéralement, de la voix qui est de plus en plus effacée, érodée, abrasée, transformée, filtrée par les fréquences de résonance du lieu, jusqu'à disparaître complètement. Bon. Alors, je vais juste écouter rapidement le début et la fin. Oui. Donc, le début. C'est une mauvaise version. Hein. Je n'ai plus la bonne. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. Donc, deuxième enregistrement.
I was sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice.
Donc, je passe un peu quelques enregistrements.
And I am going to play it back. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have.
Je passe encore quelques enregistrements. Et à la fin, on a ça. Voilà, donc j'arrête parce que c'est assez désagréable. Les fréquences de résonance sont assez aiguës. Dans la version définitive qu'il a proposée, évidemment, le son est bien meilleur. Donc il va jusqu'à 32 boucles, 32 enregistrements. Alors, évidemment, on comprend tout de suite évidemment, le sens de cette œuvre. L'espace, comme ce dehors dont je parlais, petit à petit érode, dévore la voix et la fait complètement disparaître. Et cette dimension-là est, je pense, renforcée par le deuxième sens plus profond de l'œuvre. En effet, Alvin Lucier dit bien que cette pièce n'est pas la démonstration d'un fait physique, mais comme une manière d'aplanir les irrégularités que ma parole pourrait receler. Et donc, évidemment, le bégaiement, hein, le bégaiement fin ou réel qu'il emprunte, avec lequel il dit ce texte. Et alors, quel est le sens de cette phrase ? En fait, ça veut dire évidemment que son but n'est pas de démontrer qu'il suffit de diffuser, d'enregistrer un son dans un lieu pour faire apparaître ses fréquences de résonance. C'est un fait physique qu'on peut faire n'importe quand. Mais que la seule manière pour qu'il a trouvé d'aplanir l'idiotisme de sa voix, la singularité de sa voix, donc ça, cette particularité, cette manière très singulière qu'il a d'articuler les mots, de les prononcer, donc ce bégaiement qui le différencie de tous les autres, la seule manière qu'il a trouvé d'aplanir ce bégaiement, c'est littéralement d'effacer la voix elle-même. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment aplanir ce bégaiement, on ne peut le faire disparaître qu'en détruisant la voix elle-même. Et c'est le sens peut-être très politique de cette pièce. La seule manière finalement de faire cesser le handicap, de le faire disparaître, c'est d'abolir la personne. Le bégaiement est lié à sa voix n'est rien sans son bégaiement. Bon. Et là, il s'agit bien encore une fois de jouer sur l'espace en tant que pur dehors. L'espace n'est pas composé ici. Non, justement, l'espace, c'est ce qui va du dehors détruire la voix, aplanir l'idiotisme de cette voix, hein, la rendre générale, générique, c'est-à-dire la faire passer dans le décor. La faire passer dans le dehors générique et aussi bien le dehors social, hein, selon la vie de Nussier. Hein. Bon, bégayer pour un artiste sonore, ça peut être un problème, pour quiconque, à vrai dire. Pour un artiste sonore, c'est plutôt une chance. Mais à vrai dire, il y a encore un troisième sens qui est un peu original, je pense, dans cette pièce, et qu'un camarade, qui est d'ailleurs professeur à Aix en musicologie, a découvert. C'est que si on analyse les sons, hein, les sons résultants de cette transformation de la voix, on constate qu'on arrive à un tétracorde, c'est-à-dire à quatre notes, qui en fait énonce, ces quatre notes, la structure de la courbe intonative générale du langage humain, si vous voulez. Intonation, c'est la manière dont on parle. Et on parle sur un ambitus en général assez restreint. Et la plupart des psychologues ou des linguistes qui ont travaillé sur la manière dont on prononce les phrases, la manière dont on articule les phrases, sur l'intonation de notre parole, ont remarqué que finalement, à chaque fois, on arrivait à un mode de quatre notes qui correspondait à la structure intonative un peu générale de l'espèce humaine. Et ce à quoi arrive à Ville-Nussier, c'est à ces mêmes quatre notes au bout du compte. Donc la voix filtrée par le lieu produit non seulement ses faces, mais au fond du compte, aboutit à produire, à mettre en avant, mettre à jour la structure générale de la voix humaine. Donc, une autre manière de faire disparaître la voix, soit en la faisant passer dans le décor, soit en la réduisant à sa structure générale, bon, un tétracorde de toute intonation. Bon. Alors, vous me direz, on ne peut pas à ce point généraliser à partir de deux exemples. Bon. J'en prendrai donc un troisième. Il s'agit d'une œuvre de Bill Viola, qu'il a créée en 1973 et qui s'intitule Hallway Nods, donc hein, littéralement les nœuds du corridor. Alors cette œuvre consiste en deux haut-parleurs. Est-ce qu'il est... En deux haut-parleurs qui sont situés aux deux extrémités d'un corridor, donc. Et qui émettent l'un vers l'autre, ces deux haut-parleurs, une même onde sinusoïde de 50 Hz. Bill Viola a calculé la distance entre les deux haut-parleurs de manière à ce qu'il n'y ait entre eux qu'une seule longueur d'onde. L'équation est des plus simples. Donc la longueur d'onde en mètres donc, est égale à la vitesse de propagation de l'onde, soit 340 mètres secondes, divisée par la fréquence 50 Hz, ce qui donne 6,8 mètres. Cette distance lui assure que les deux ondes seront rigoureusement opposées. Vous voyez donc, mètres pour une onde de 50 Hz se déplaçant dans l'air. Ce que Bill Viola produit ainsi, c'est ce qu'on appelle une onde stationnaire, standing wave, soit la superposition stable de deux ondes. Cette superposition produit des nœuds, hein, vous voyez, c'est marqué nœuds, et des ventres, donc par opposition aux nœuds, selon que les ondes s'additionnent ou s'opposent le long de leur parcours. Quand elles s'additionnent, le volume sonore est double. Et quand elles s'opposent, il s'annule. Bon. Ainsi, le long d'une onde stationnaire, bien conçue, comme les celles de Bill Viola, il y aura des zones où le son est très fort et des zones où il est très faible. Bon. Dans Hallway Noise, il est très faible à égale distance des deux haut-parleurs, donc vous voyez, au milieu, et il est également très faible tout près des haut-parleurs. Vous me direz, cette œuvre n'est rien d'autre, encore une fois, que la démonstration d'un fait physique. Eh bien non. D'abord, se déplacer dans un son, littéralement le long d'une onde sonore, entre ses nœuds et ses ventres, demeure une expérience irremplaçable, hein, quelles que soient les connaissances que nous avons par ailleurs en matière de physique des sons. Bon. Mais Bill Viola fait aussi autre chose que de nous procurer une expérience inoubliable. Je dirais qu'il écorche pour nous un son dans l'espace de sa propagation. On peut, grâce à lui, bon, il y a d'autres avant lui, hein, il n'est pas le seul à avoir travaillé sur les ondes stationnaires, hein, lui, il y a Monte Young, bien sûr, avec sa Dream House, hein, dès 64, et il y aura après lui Michael Brewster, bon, et d'autres compositeurs, notamment des artistes minimalistes. Bon. Donc on peut, grâce à cette installation et à d'autres, explorer, ausculter, écouter la propagation d'un son, hein, la saisir, si je puis dire, au vol, fixée par miracle, mais toujours active, hein, autour de nos oreilles. On entend un son se propager, mais de manière stable. À une nouvelle fois, pas de musique ici, évidemment, ce n'est pas une pièce musicale. Pas d'objet sonore non plus. Il ne produit pas d'objet sonore au sens où je ne fais rien. Ce qu'il y a ici, c'est le son lui-même, en tant que sa propagation dans l'air se donne à entendre. Le son, encore une fois, comme dehors. Donc c'est le son lui-même maintenant, dans ces œuvres-là, qui devient le dehors. Qui devient l'objet extérieur qu'on va pouvoir ausculter. Donc le son non plus comme moyen, mais le son comme fin, si vous voulez. Bon. Et chez la Monte Young, cette fin va devenir une fin quasiment religieuse ou mystique, puisque la Monte Young ne travaillera pas seulement sur une onde stationnaire, mais sur d'innombrables ondes stationnaires qui, non seulement donc, produisent des nœuds et des ventes, mais aussi produisent ce qu'il appelle l'effet Tartini, hein, c'est-à-dire quand on l'effet de battement qu'il y a quand on diffuse deux ondes à la fréquence très proche. Par exemple, 50 et 51 Hz. Si vous essayez de diffuser en même temps deux ondes aussi proches, vous avez des effets de battement. Et la Monte Young a travaillé sur un rapport 31 sur 32, qui est pour lui le rapport mystique, le nombre d'or de l'acoustique. Et donc les fréquences qu'il diffuse dans sa Dream House obéissent tous à ce rapport-là. Et il veut produire un état, littéralement, un état physique et spirituel propice aux auditeurs qui entrent dans sa maison. Et d'ailleurs, la Dream House n'est pas seulement sonore, elle est aussi lumineuse, puisque Marion Zazila, sa compagne, a produit à l'aide justement d'interférences, cette fois-ci, entre des spectres, des ondes lumineuses, une lumière violette, rose, hein, qui vient du fait qu'elle place sur les fenêtres des vinyles de bleu et de rouge. Donc même la lumière du lieu est produite par interférence, hein, par superposition d'ondes lumineuses différentes. Oui, donc on peut aussi utiliser cette méthode, ces ondes stationnaires, pour produire un certain type d'effet, comme moyen pour amener l'auditeur à un certain état spirituel ou physique. Mais ce n'est pas le cas, en l'occurrence, dans la pièce d'Alvin Nussier, ni dans celle de Michael Brewster, qui est un grand artiste sonore californien. Alors, on va maintenant conclure, peut-être. Donc là, la Dream House, justement, hein, de la Monte Young. Alors, je dirais, pour conclure, que l'espace, mais aussi le bruit, sont, pour l'art sonore, quelque chose comme des transcendantaux. C'est-à-dire des conditions de possibilité. Le monde peut être travaillé par l'art sonore parce que les conditions qui font qu'il y a un monde pour nous sont précisément celles qui permettent à l'art sonore de le faire apparaître. Le bruit de fond, comme transcendantal du monde moderne, ce qui lui était tellement reproché par Murray Schafer, mais le bruit de fond, c'est quand même bien la condition de possibilité de l'art sonore. Travailler ce donné-là et le faire apparaître et le faire varier est la condition d'existence de l'art sonore. Donc le bruit de fond, le bruit en général, est bien le transcendantal de l'art sonore, hein, et pas quelque chose qu'il faudrait musicaliser. Bon. Et l'espace, bon, évidemment, est, lui, le transcendantal du monde tout court. Mais c'est vrai que les nouvelles techniques d'enregistrement, de reproduction, de captation, de transformation des sons, ont permis aux artistes sonores, aux musiciens, de faire apparaître, littéralement, hein, les lieux, à l'aide du son, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, pour finir, je voudrais vous donner un très bon exemple, à mes yeux, de bruit comme transcendantal, hein, ce qui nous permettra peut-être de faire jouer un peu différemment l'opposition trop massive et, je pense, injuste, fausse en tout cas, entre art sonore et musique, puisque cet exemple est emprunté à la pop. Et je pense que la pop est un art sonore, hein. Finalement, la pop est moins une musique qu'un art sonore, dans ce sens-là, et que le bruit est, sans aucun doute, le transcendantal de la pop. Voilà, donc vous remarquez que ce cluster orchestral incroyable est aussi littéralement un pont, hein, puisque grâce à lui, on change de tonalité. Hein, il y a une modulation au moment de la reprise du morceau par Lennon qui est assez marrante. Et alors, symboliquement, ça va plus loin, puisque vous savez que cette chanson a été composée par Lennon et par McCartney. C'est une des rares chansons qui a été composée par les deux. Et justement, c'est McCartney qui reprend le chant après, et c'est la partie qu'il a composée qui vient après le pont. Donc entre Lennon et McCartney, il y a ce cluster, il y a le bruit littéralement, comme transcendantal, si vous voulez, qui est à la fois le pont et le gouffre qui les sépare, et qui sépare aussi les Beatles du rock, si on peut dire. Et le réveil que vous entendez d'ailleurs à la fin, en fait, est un accident. Il était dans le studio et il a sonné, alors qu'il n'était pas censé le faire, mais ils l'ont gardé au montage. Voilà, merci.